Mesdames, Messieurs, bonsoir. Je vais vous lire un petit texte d'Italo Calvino. J'aimerais bien que c'est pas la peine d'amplifier ma voix, vous m'entendez ?
Pour l'instant, oui.
D'accord. Arrivé depuis peu et tout à fait ignorant des langues de l'Orient, Marco Polo ne pouvait s'exprimer autrement qu'en sortant des objets de ses valises. Tambour, poisson salé, collier de dents de facochère, et les montrant par des gestes, des sauts, des cris d'émerveillement ou d'horreur, ou bien en imitant l'aboiement du chacal et le ululement du hibou. Les relations entre un élément et l'autre du récit n'apparaissaient pas toujours clairement à l'empereur. Les mêmes objets pouvaient vouloir dire des choses différentes. Un carquois plein de flèches indiquait tantôt l'approche d'une guerre, tantôt l'abondance du gibier, ou encore la boutique d'un armurier. Un sablier pouvait signifier le temps qui passe ou le temps passé, ou encore le sable, ou encore une officine où l'on fabrique des sabliers. Mais ce qui rendait précieux à Kublai chaque fait ou nouvelle rapportée par son informateur muet, c'était l'espace qui restait autour, un vide que ne remplissaient pas les paroles. Les descriptions des villes visitées par Marco Polo avaient cette qualité qu'on pouvait s'y promener par la pensée, s'y perdre, s'y arrêter pour prendre le frais ou s'échapper en courant. Avec le temps, dans les récits de Marco, les paroles peu à peu se substituèrent aux objets et aux gestes. C'est un extrait du livre Les villes invisibles d'Italo Calvino, qui m'a été envoyé par Sol Ghili, qui est ici, pour compléter sa participation au catalogue de l'exposition que je suis en train de préparer. Et je trouve que c'est un beau texte parce que c'est vraiment métaphoriquement la façon dont je pense une exposition. C'est-à-dire une exposition, c'est une accumulation d'objets qui sont sans parole, dénués de mots, et que le propos du commissaire d'expo que je suis, c'est vraiment de les organiser ensemble et de faire ce travail que fait Marco Polo, de les sortir de son sac et de les accompagner de hurlements, de ululements, ou de les présenter, de les poser, de les agencer ensemble, de les mettre en scène en fait. Et pour produire un discours et puis pour que ça suscite chez les gens qui le reçoivent, dont on ne parle pas, avec qui on ne parle pas forcément la même langue et à qui on ne s'adresse pas forcément directement comme je le fais ce soir. C'est une façon donc de transmettre des informations qui sont dans un laps de variables d'interprétation très large en fait. Enfin, chaque œuvre d'art est interprétable et reçue par les gens de mille manières différentes. Et moi, c'est ce qui m'intéresse dans l'art en général, parce que je suis là aussi pour un peu, je crois, pas que parler de l'exposition, mais situer un peu ma position par rapport à l'art. C'est vraiment de manipuler des objets qui sont obscurs, qui gardent une force de qui ne s'épuisent pas, qui n'épuisent pas leur sens en fait. Donc en fait, je vais parler un peu mon propos dans cette expo en parlant d'un rapport au matérialisme et puis après d'un rapport à l'appropriation qui est un geste. Enfin, l'appropriation, c'est un terme bien connu en art. On parle souvent d'appropriationnisme et c'est cette exposition, enfin cette série d'expositions a beaucoup à voir avec ces gestes de récupération de signes, de symboles, d'œuvres d'art existantes. Et c'est plutôt dans un rapport mélangé en fait que j'ai voulu les réunir. Donc je vais après donc vous parler un peu de ce rapport à l'appropriation. Et puis ensuite je vais parler plutôt de la façon dont les œuvres agencent ce répertoire que les œuvres agencent en ces répertoires formels ou ces citations qu'elles font les citations que les œuvres font, c'est des citations de territoires très particuliers qui sont comme on parle de marché niche, c'est des univers de référence très précis, très particuliers et très singuliers. Un marché niche, c'est un terme peut-être plus d'économie, mais quand on développe un produit qui est tellement spécifique, qui s'adresse à une tranche particulière de consommateurs, on peut dire, si des consommateurs, par exemple, le e-book ou le non enfin le comment ça s'appelle du coup je perds mes mots ouais bah par exemple un e-book ça s'adresse à c'est un objet qui s'adresse à une tranche de consommateurs bien spécifique une génération de gens qui sont plutôt qui travaillent avec des images et
un
tout ça
ciblé, quoi.
C'est un public ciblé voilà
consommateurs
Et moi, je fais le parallèle avec des histoires de marché niche parce que c'est vrai que dans ces œuvres qui ont traversé ces trois expos, il y a un rapport assez crypté à des univers de référence bien spécifiques. Et voilà, c'était ça l'idée. Mais je vais partir de ce rapport à la baronne, qui est. Je vais retrouver mes notes. Voilà. Qui est un personnage qui, à force de l'avoir répété quatre fois, parce qu'en fait, il y a eu trois expositions, il y a le catalogue qui se prépare, qui va encore porter le même titre, qui est Madame la Baronne était plutôt baroque, assez rococo. Enfin, non, c'est même pas ça, je m'en souviens jamais. Madame la Baronne était plutôt maniérée, assez rococo et complètement baroque. Donc il y a eu l'acte 1, chapitre 2, volume 3, il y aura le livre 4, qui lui-même en fait sera aussi une proposition à nouveau de remettre en scène cette femme, à travers un support publié, un support papier. Et donc ce personnage, au fur et à mesure, à force de la citer, j'avais envie qu'elle prenne forme sous la forme d'un fantôme, et c'est pour ça que le livre va s'ouvrir sans doute sur ce texte. Qui est un texte de Robert Malaval, hein, qui est un artiste que j'ai découvert lors d'une exposition au Palais de Tokyo, il y a un an et demi de ça, qui est un artiste assez rock'n'roll, qui est très inspiré par la musique. Il y avait dans l'entrée de l'exposition ce texte-là, écrit sur le mur. Je peux vous le lire si vous voulez, le fantôme. Ça s'appelle donc le fantôme. Le fantôme en a marre d'entendre dire qu'il n'existe pas. Il va vous en faire voir à tous ces vivants ce que c'est qu'une apparence quand elle apparaît vraiment. Le fantôme a du vague à l'âme. Il ne sait plus très bien où il commence et où il finit. Le fantôme est-il de droite ou de gauche? Le fantôme s'en fout, il est de l'au-delà. Le fantôme a horreur des sentiments pourris. Le fantôme aime le vide. Parfois, comme vous et moi, ce fantôme en a marre de tout ça. Et plus souvent, le fantôme se marre. Il laisse aux humains ce mirage, croire à la réalité. Je trouve que c'est un texte qui est assez beau, assez simple, et qui pose bien mes intentions par rapport à cette baronne qui est de la faire exister sous la forme au moins d'un fantôme. Et surtout, cette histoire de mirage, de croire à la réalité, pour moi, une exposition, c'est vraiment un lieu qui est à la frontière entre les fictions qui sont développées par les œuvres et la réalité du lieu. C'est pour ça que dans toutes ces expositions, moi, j'ai voulu vraiment garder un rapport très frontal aux œuvres et puis garder l'aspect un peu brut du lieu. J'ai pas voulu lui donner un aspect baroque. Par exemple, j'aurais pu dire, allez, on peint les murs en rose, en vert, en doré et on met des effets de lumière et tout ça. Je voulais garder un certain académisme de la forme exposition pour garder ce rapport très concret à la réalité, parce que pour moi ce qui est important, et là où ça se joue, c'est vraiment dans les œuvres, et j'avais envie qu'elles soient éclairées d'une manière assez crue, parce que c'est justement, là je vais en venir à cette histoire de matérialisme, qui est une entrée que je revendique en fait pour une clé de lecture des œuvres que je revendique comme une façon de les regarder. Donc le matérialisme, pour moi, c'est... Je vais prendre un petit verre d'eau, une petite gorgée. En fait, voilà, le matérialisme, c'est pas cette idée forcément préconçue qu'on peut avoir en disant on est dans une société matérialiste qui ne pense qu'à la consommation et aux objets. C'est plutôt justement comment penser aux objets dans un rapport matériel, et c'est s'attacher à la qualité matérielle de leur surface et comment ils se présentent à première vue. C'est une façon aussi de d'essayer d'avoir sur les œuvres un regard d'abord qui n'est pas forcément instruit, informé, éduqué, mais qui est d'abord comment c'est fait, comment c'est fabriqué, quel est le matériau, quelle est la couleur posée dessus, comment ça se présente. Et c'est là-dedans, je trouve qu'on a déjà plein d'informations et qu'on apprend à regarder, en fait. Je vais peut-être vous parler de... Par exemple, pour cette pièce de Karina Biche qui est là, c'est, si on a un regard très matériel dessus, on s'aperçoit que c'est une œuvre composée de petits morceaux de bois récupérés a priori à droite à gauche, parce qu'ils ont tous des espèces de coupes qui sont un peu aléatoires, qui ne semblent pas du tout systématiques en tout cas, et il y a quand même l'idée d'une récupération de bouts de bois. On voit qu'il y a des vis, des trous qui ont perforé les morceaux. Donc on sent qu'il y a vraiment une fabrication artisanale et que l'artiste a passé du temps à fabriquer cet objet aggloméré comme ça. Et si on le regarde bien, on s'aperçoit aussi qu'il est peint très grossièrement au pinceau. On voit même les traits du pinceau, donc c'est recouvert comme ça d'une couche violette. Et puis c'est pas recouvert aux endroits où le pinceau ne pouvait pas accéder, donc il y a plein de morceaux qui sont encore blancs ou bruts ou en bois. Et puis on sent aussi, je pense, si on regarde un peu et qu'on tourne autour, qu'il y a une espèce de procédé de fabrication qui tourne en rond. En tout cas, elle a vissé au fur et à mesure, donc il y a une espèce de, à partir d'un centre qui était un cube, il y a une expansion de forme très aléatoire. Et voilà, donc ça c'est le premier rapport assez direct, les premières informations qu'on peut avoir de cette pièce. Donc on sent qu'il y a un principe de construction vraiment empirique, comme ça, où on tourne autour des objets, que les petits morceaux de bois s'accumulent les uns sur les autres. Et puis après, il y a aussi une façon de la regarder dans un second temps, qui peut être plus instruit ou plus informé ou plus intuitivement cultivé. C'est qu'on sent qu'il y a des réminiscences de formes de l'art moderne. On voit un rapport peut-être à aux espaces de El Lissitzky, où on voit des constructions à la Malevitch. Mais tout ça, c'est des références très floues, en fait. Et je pense que c'est vraiment des réminiscences communes qu'on peut avoir et qui sont un peu en infrabasse, pour utiliser un vocabulaire musical, mais pour moi c'est vraiment assez, cette pièce elle est assez typique d'un rapport aux œuvres qui est comme ça, pour moi de l'ordre de la citation, mais qui n'est pas de l'ordre de la culture de répertoire. Donc c'est une façon, pour moi, ce rapport très matérialiste aux objets, c'est une façon aussi de s'enfoncer au fur et à mesure dans toutes les significations, les couches de signification que les objets peuvent porter. Il y a un livre de Nabokov qui m'a inspiré aussi ça, qui s'appelle « La transparence des choses ». C'était d'abord son titre qui m'avait attiré, parce que c'est un... Cette idée de transparence et de surface des œuvres, c'est un domaine qui m'intéresse en général, justement lié à cette histoire d'observation et de matérialisme. Et donc il dit, en entrée de ce livre, il dit « Lorsque nous nous concentrons sur un objet matériel, où qu'il se trouve, le seul fait d'y prêter attention peut nous amener à nous enfoncer involontairement dans son histoire. Les néophytes doivent rester au ras de la matière s'ils veulent qu'elle reste au niveau précis du moment. » Transparence des choses à travers lesquelles brille le passé. Je n'ai pas la suite parce que j'ai oublié ce livre. Je voulais l'apporter puis vous lire un petit passage. Mais après, dans la partie roman, ça c'est la partie plus introductive de la méthode qu'il applique dans le roman. À un moment, ça commence, le héros rentre dans une salle d'hôtel, dans une chambre d'hôtel, et il ouvre un tiroir. Dedans, il y a un crayon. Et à partir de ce crayon, Nabokov fait 10 pages de description très détaillée du crayon, de l'origine, des outils qui ont pu le fabriquer. Enfin, ça devient même une sorte de dérive littéraire. Mais moi, je trouve ça assez beau, et c'est un truc que j'ai envie aussi de générer, quoi, quand dans une expo, c'est de susciter des espèces de dérives un peu sous la forme de rêverie. C'est une façon de déplier le sens, ouais, c'est ça, de déplier le sens à partir d'une observation qui est quand même très proche de l'objet lui-même et qui a un aspect comme ça un peu scientifique, mais qui après part dans des considérations qui sont informées. Alors donc Nabokov décrit comment la mine de crayon se fabrique, comment, d'où vient le tilleul à partir duquel le crayon a été taillé, tout ça quoi. Donc bon, ça c'est un peu exagéré parce que je pense que du coup c'est un peu un rapport sans doute fantasmé que j'aurais au pouvoir de suggestion qu'à une exposition ou une œuvre d'art, mais en tout cas c'est un début de ça que j'aimerais proposer, enfin susciter. Et alors Donc en fait, le rapport à ces trois termes, là, rococo, baroque et maniéré, pour moi, c'était donc déjà les utiliser d'une façon, dans leur sens commun, comme des traits de caractère de ce personnage qui se manifestait dans les œuvres. Et les œuvres étaient porteuses, en fait. Enfin, pour moi, ce titre a une valeur un peu directive, quoi, sur l'exposition et sur les œuvres, dans le sens où quand on lit Madame la Baronne était, etc., et qu'on va voir l'expo, on imagine que les œuvres, en fait, que son esprit pourrait être dans les œuvres, et inversement, que les œuvres seraient porteuses de son esprit, la développeraient. Et donc c'est pour ça que je voulais dire que j'utilisais ces notions pas vraiment dans leur sens historique, mais plus dans un sens courant. Mais c'est pas totalement par hasard non plus, c'est pas juste parce que ça s'adapte à des traits de caractère d'une baronne, c'est vrai, c'est aussi parce que le rapport au baroque, c'est pour moi un rapport à une accumulation de couches de sens. Et donc je vais reprendre pour ça la citation que j'ai mis un peu en exergue de toutes les expositions. J'utilise beaucoup de citations parce que je pense, c'est un moyen pour moi de pas forcément de faire des citations, d'utiliser des figures d'autorité, mais plutôt de vous donner comment la manière dont je compose, peut-être parallèlement à tous ces artistes aussi qui eux-mêmes utilisent des univers de référence. Moi aussi je me base sur des univers de référence comme ça qui sont littéraires ou autres. Donc j'avais utilisé la notion de baroque par rapport à la définition qu'en donne Borges dans l'histoire de l'infamie. Où il dit « J'appellerai baroque le style qui épuise délibérément ou tente d'épuiser toutes ses possibilités et qui frôle sa propre caricature, l'étape finale de tout art lorsqu'il exhibe et dilapide ses moyens. » Et à la suite de ça, Borges, dans l'histoire de l'infamie, il fait une succession de récits de gens qui ont eu un rôle peut-être mineur dans l'histoire, mais qui ont eu un rôle terrible, des truands ou des meurtriers. Il utilise pour chaque personnage un style particulier de description. Et moi, c'est ce qui m'intéresse dans l'art, ou c'est ce que j'ai essayé de développer dans les expositions que j'ai faites avant aussi. C'était un rapport à la stylistique, au style. Parce que pour moi, un style, c'est proche d'un effet caricatural, et donc c'est assez efficace. C'est assez efficace dans le sens où il y a... l'effet caricatural, en fait, ou l'effet un peu grossi ou un peu outré d'une œuvre ou d'une exposition, ça permet aussi d'avoir des postures, des positions affirmatives. J'essayais de pas être trop abstraite, en fait, parce que du coup, ça devient... Par rapport au style... En fait, j'avais fait une exposition qui s'appelait Hyperstyle, qui était à Berlin, que j'avais faite à Berlin avec quelques artistes que j'ai aussi invités à cette exposition. Comment je vais sortir de là? C'était à Berlin, il y avait Lili Reynaud-Dewar, Daniel Dewar et Grégory Gicquel, que j'ai invité aussi à Suite Baroque, et Alexander Wolf qui a fait cette peinture murale-là. Je vais vous montrer 2-3 pièces d'eux pour vous situer un peu. Je vais essayer de pas trop dériver là-dessus, mais quand même, c'était important. Là, vous avez une vue. Comment j'ai ? Bon, je vais peut-être pas les agrandir parce que je sais pas les agrandir vraiment. Là, c'est une pièce de Lili Reynaud-Déhoire. Là aussi, un papillon. Bon, en fait, c'était une exposition qui réunissait un ensemble d'œuvres qui se manifestaient sous un style très particulier. Par exemple, là, on a affaire à des portes de grange qui sont en fait avec un motif sumo traité à la manière d'un mobilier plutôt japonais. Non, pardon, plutôt chinois. Donc avec un... Ouais, le motif en fait est japonais avec les sumo, et puis le traitement est plutôt chinois, donc c'est orientalisant en fait. C'est totalement, c'est pas du tout précis la façon dont ces artistes utilisent cette stylistique. C'est plus des réinterprétations avec un phénomène d'accumulation en fait de plein d'univers de référence. Ça, c'est Daniel Déhoire et Grégory Jiquel, donc qui passe de ça à cette espèce de quad planté donc ça, c'est un quad. Qui a cette moto là à quatre roues plantée d'un yucca avec une guitare et une mandoline et sur le côté, et puis un violon qui sont les instruments de la bluegrass, donc des instruments de la musique country américaine, et tout en bois taillé. C'est du bois, c'est du châtaignier, je crois. Donc c'était pour moi, c'était une façon. Alors là aussi, on voit une vue avec deux petites photos de Jay Chang et Takeki Maeda, qui sont en fait ces deux photos-là, qui étaient accompagnées d'un texte. Bon, je ne vais pas rentrer trop dans le détail de toutes ces pièces qui ont chacune leur histoire, mais pour moi, c'était une façon de jouer avec des styles bien précis, c'est-à-dire que ces deux photos de Jay Chang et Takeki Maeda, qui sont quasiment identiques et qui sont accompagnées d'un texte, qui dit. Pew, qui est ce personnage là avec ses lunettes noires, devait partir au Japon pour toujours, et on devait se séparer, c'était notre dernière au revoir. On a pris une photo souvenir, et puis après on voit là une autre photo où il dit en fait il est parti qu'un mois plus tard, on a pris encore une photo souvenir de son départ et de notre dernier échange. Et en fait, c'est une œuvre qui est liée vraiment à un rapport très typique à l'art conceptuel, où dans l'art conceptuel, il y a une photographie témoin et puis une règle de l'action qui est énoncée à côté, donc un texte. Il y a vraiment ce rapport image-texte qui est propre à... presque même immédiatement visuellement identifiable à l'art conceptuel, sauf que là il renverse un peu, on ne sait pas si c'est les photos qui ont généré le texte ou si c'est le texte qui a généré l'action. Il y a une histoire de falsification un peu des preuves qui sont apportées par ces photos. Bon, alors voilà, et puis Lily qui faisait son papillon, tout ça c'était une accumulation de styles différents. Il y avait un rapport à un style artisanal, la boule elle l'appelait Florida Interior Object, donc un objet d'intérieur pour la Floride. Tout ça, c'est des objets qui sont vraiment dans un rapport assez démonstratif finalement au style auquel ils font référence. Alors pour moi, la notion de style, c'est une notion qui est un peu dangereuse, un peu glissante, qui est justement un peu caricaturale et qui est assez académique finalement. Parce que quand on parle de style, on parle de manière de faire et on dit ouais, ça c'est style Van Gogh par exemple, pour identifier quelqu'un qui serait de la même période de Van Gogh et qui utiliserait la même type de touche un peu épaisse et dans une peinture expressionniste. Enfin, tout ça c'est des façons de catégoriser finalement les œuvres d'art dans des tranches très définies et très typées. Et donc c'est pour ça que c'est presque une lecture socioculturellement déterminée des œuvres. Ça leur laisse pas vraiment la liberté d'être singulière ou autonome. C'est là-dessus c'est pour ça que ce terrain est assez glissant, parce que quand on parle de style, on parle aussi d'une école, d'un genre, d'une époque. Mais je vais reprendre. Et donc c'est assez déterministe en fait comme mode de pensée sur l'art, et assez euh, et assez formelle finalement aussi. Mais moi, ce qui m'intéresse là-dedans, c'est justement que ça permet de clarifier aussi les choses et que ça permet de dire, voilà, ça s'annonce comme tel. Vous les reconnaissez avec votre regard, éduqué. Vous reconnaissez que ça, c'est plutôt un style artisanal ou quoi. Mais en fait, ce n'est pas que ça. Enfin, y a une sorte de jeu avec la reconnaissance qu'on peut avoir, une reconnaissance immédiate des œuvres. Alors... pour revenir un peu sur cette exposition-là. Je vais... je suis pas totalement organisée, mais je vais retomber sur mes sites. voilà, en fait, excusez-moi, je suis à un petit laps de temps parce que je suis un peu... j'avais condensé toutes mes notes quelque part et j'ai oublié ce document ailleurs avant d'arriver. Donc, je suis en train de reconstituer mon articulation. Juste... Pour moi, une œuvre d'art, c'est un objet qu'on peut analyser et sur laquelle on peut très bien aussi apporter des lieux communs, enfin avoir une appréhension très simple. Et du coup, je vais citer Suzanne Sontag qui dit qu'une œuvre d'art rencontrée comme telle est une expérience et non un statement ou une réponse à une question. L'art n'est pas seulement à propos de quelque chose, il est quelque chose. Une œuvre d'art est une chose dans le monde et non pas juste un texte ou un commentaire sur le monde. Pour moi, en effet, une œuvre, elle est porteuse de l'histoire de son époque. Alors, je vais revenir à une analyse plus concrète de pièces. Avec la pièce d'Alexander Wolff, par exemple, que vous voyez derrière vous. Qui est là en photo. Je vais faire le petit diaporama, comme ça vous aurez une vue. Je trouve ça intéressant aussi de redoubler. Oh, il y a une musique. Alors, attendez, je vais couper le son. Je trouve ça plutôt aussi... Oh là là. Je refais un peu mon diaporama. C'est pas grave si ça fait des... D'accord, c'est pas grave. Je trouve ça intéressant aussi de redoubler. Là, on est dans cette expo que je vous montre en photo. Et des fois, les photos, justement, les prises de vue montrent d'autres. Par exemple, cette prise de vue, je la trouve assez intéressante. Vous êtes en face et on voit vraiment qu'il y a des rapports formels entre les meurtrières, en fait, de la pyramide de Lili Reynaud-Dewar et puis les fenêtres et puis ces deux colonnes de Karina Bich. C'est vrai, en photo, des fois, ça fait des raccourcis intéressants pour voir ça. Donc, je voulais vous parler de la pièce d'Alexander qui est assez intéressante sur ce rapport à des notions d'appropriation. Donc, je vais arriver à ma deuxième partie. Cette histoire d'appropriation, en fait, qui est assez présente dans beaucoup de ses œuvres. Donc, Alexander Wolff, là, ce qu'on voit, qui est cette peinture murale derrière vous, c'est en fait, on voit des symboles qui vont un peu dans tous les sens. Je vous parle donc des peintures elles-mêmes. Donc on reconnaît peut-être le A de Anarchie, cette espèce de dragon, l'arbre. On reconnaît une sorte de démon qui descend là. Enfin, c'est des signes qui sont vraiment faits à la main levée et puis qui évoquent une peinture assez expressionniste et qui sont... en fait, à l'origine puisée dans des peintures murales qui ont été réalisées dans les années 70 dans des centres culturels type maison populaire, justement, en Suisse. Donc, Alexander avait un livre qui reproduisait des, qui, avec des photographies qui reproduisaient ses peintures murales. Et il a pris plein d'éléments comme ça qu'il a combinés et puis il a fait tout ce, tout, toute cette peinture comme ça à main levée en reproduisant selon une composition vraiment libre en fait. Il n'y a pas de hiérarchie entre les éléments, c'est vraiment une accumulation en quelque sorte de tout ça. Et par-dessus, il a posé une forme géométrique abstraite qui vient enlever toutes ces images et qui devient une forme plutôt iconoclaste, en fait, de superposition. Et là, ce qui fait, en fait, Alexander, ce geste, si on le regarde du point de vue de l'appropriation, de ce que c'est que, comme geste artistique que de récupérer des formes préexistantes et de les accumuler ensemble, c'est une espèce de tentative de lutte entre de voir ce que ça produit que d'associer de la peinture expressionniste abstraite très chargée idéologiquement par des motifs idéologiques de gauche, enfin comme on peut voir voilà, enfin c'est une superposition entre l'idéologie les formes idéologiques gauchistes et une abstraction géométrique très formelle, très froide qui vient s'appliquer dessus, et finalement ça crée une synthèse assez joyeuse et qui n'est pas uniquement qui n'est pas uniquement réductible à un conflit d'idéologie, mais je ne sais pas si vous percevez ça, enfin ce rapport à deux univers formels qui sont superposés, mais qui sont aussi eux-mêmes porteurs de deux univers idéologiques, en fait.
Moi, j'ai presque envie de dire, ce qui m'intéresse aussi, ce qui va dans le sens de ce que tu racontes, c'est quand même le procédé qu'il a employé pour faire ça. On n'a pas rajouté des formes géométriques par-dessus pour masquer les images, mais les formes géométriques sont des coupures, des ruptures. C'est-à-dire qu'il a coupé au cutter dans sa toile des formes qu'il a ôtées. Au niveau du geste, c'est pas pareil que si je colle par-dessus quelque chose qui masque. Là, il a enlevé, mais il reste une espèce de trace quand même qui est là. Tu vois, la trace, qu'est-ce que ça veut dire, ce geste de ne pas, c'est pas caché, mais c'est ôté.
C'est enlevé, c'est retiré. Ouais, c'est pour ça aussi qu'en effet, le.
Qui peut dire aussi des choses. Dans ce qui est. Qu'est-ce qui reste de ce joyeux foutoir à un moment donné comme mémoire par rapport à ces formes rigides qui apparaissent, qui ont contribué à la limite à fermer ces maisons populaires qui existaient. Donc c'est un geste assez violent.
Oui, c'est une structure qui est très autoritaire par rapport à la liberté de composition de tous ces signes-là qui sont derrière, enfin qui sont dessus en fait. Ils sont dessus parce qu'en effet, ils sont par-dessus la surface du papier peint qui a été retiré. Et je pense que cette pièce, elle est assez significative de cette pratique d'appropriation des formes qui pour moi est vraiment liée, on qualifie souvent ça comme une étape postmoderne de l'art, où on dit voilà, il y a eu une espèce d'évolution, le modernisme a produit tout un tas d'idéologies et qui étaient portées par des formes artistiques, et maintenant on est dans une période postmoderne où les artistes recyclent ces formes d'une façon déhiérarchisée et désidéologisée. Moi je suis pas tout à fait en phase avec cette pensée là bon, même si je la réduis complètement pour pouvoir la démonter un petit peu, c'est que cette histoire de postmodernisme, ça suppose une vision complètement évolutionniste de l'art et même de l'histoire, où on aurait une espèce de crescendo d'évolution de production, et puis à un moment un arrêt, et puis maintenant on serait dans une espèce de rapport très lucide qui regarderait en arrière et qui récupérerait ses formes sans les comme si elles étaient toutes à un même niveau et toutes interchangeables. Or, je pense que les artistes qui utilisent ces formes sont tout à fait conscients de les faire rejouer en fait, et elles ne sont pas dissociées de leur histoire. Et pour ça, ici, en fait, dans cette expo, il y a des œuvres qui citent une histoire des formes, mais il y a aussi des œuvres qui citent plus une géographie qui est contemporaine, enfin, qui du coup fait référence à des formes contemporaines, une géographie ou un monde. Par exemple, cette pièce de Lily Renaud-Dewar, elle est aussi dans un rapport de citation, de récupération de formes préexistantes. Bon. Qui est très inspiré de symboles New Age, avec cette histoire du cercle, avec des formes géométriques simples, avec la pyramide. Mais c'est aussi une façon de combiner ça à la culture rasta, donc avec ces couleurs, les couleurs rasta qui sont bien prédominantes dans cette sculpture, le rouge, le jaune et le vert. Et puis ce disque vinyle du groupe Culture avec qui s'intitule Harder Than the West. Donc si on traduit littéralement, c'est la culture plus forte que le reste. C'est un peu aussi une blague, je pense, de cette citation directe. Enfin, c'est un peu une position où elle affirmerait une sorte de prédominance de la culture, et en même temps la culture qu'elle cite, c'est vraiment une culture minoritaire, parce que bon, dans ce texte là qui est éparpillé au sol et qui a été lu le soir du vernissage par une belle blonde, très opulente et très, très blanche. Il y a une traduction de ce texte là sur le comptoir, mais ça raconte l'histoire de Queen Mother Nanny, qui est une figure, qui a participé à la libération ce mouvement de libération des esclaves noirs. En Jamaïque. Et donc, qui est une figure de la culture rasta aussi très, très forte et qui est très honorée. Voilà, donc en fait, Lily Renaud-Dewar, elle est aussi dans un rapport de citation, de recyclage de formes, mais elles sont chargées d'histoire et d'histoire très spécifique et très. Elle puise là dans un domaine avec lequel elle n'est pas en adhérence complète, hein, d'ailleurs. C'est pas forcément une artiste qui est une fan de culture rasta, quoi. C'est aussi il y a une certaine distance dans la mise en scène de ces formes-là. Mais ce que je voulais dire par rapport à cette histoire d'appropriation, c'est que les artistes qui agissent de la sorte, comme Karina Bich, par exemple, c'est très clair dans son travail, en tout cas. Où elle, du coup, elle fait vraiment référence à des formes de l'histoire moderne, mais dans une volonté de les relire, de relire l'histoire de l'art moderne, en les faisant rejouer plus qu'en les commentant. Donc, par exemple, cette espèce de masque, c'est une reprise du logo du Baos, qui lui-même a circulé aussi beaucoup dans la culture populaire, et qui était aussi le logo d'un groupe qui s'appelait Baos, un groupe de musique indus. Et alors là, elle le traite avec aussi ces petits bouts de bois qu'elle récupère à droite à gauche, qu'elle appelle les leftovers, qui sont donc les laissés à côté. Et du coup, sur ce logo Baos, porteur lui-même d'une idéologie, elle le fait dériver vers un maniérisme qui est beaucoup plus lié à un traitement africain, enfin on dirait un masque africain plus, du coup, parce que c'est des petits morceaux de bois un peu taillés dans tous les sens, un peu cassés, et qu'il y a cette esthétique là du masque. Voilà, donc en fait c'est pour moi, c'est aussi des artistes qui plutôt que d'être dans un rapport de commentaire direct ou de citation, sont dans une forme de vision rétro-perspective. Plutôt que rétrospective, ils les font rejouer, quoi. Voilà. Cette histoire de rétro-perspective, pour moi, c'est aussi une façon d'affirmer une lecture non linéaire de l'art, mais ou de l'histoire, un rapport non linéaire et un rapport. Au lieu de regarder en arrière, on se place en perspective et on transforme ce qu'il y a avant, en fait. Voilà, donc je pense que sur cette histoire de... D'ailleurs, dans le communiqué de presse de la troisième exposition, je dis la baronne est un peu perdue dans cette accumulation de signes, elle ne sait plus trop où donner de la tête et elle a l'impression que tout est un peu indifférencié et qu'elle est dans une phase de l'après-tout-ça. Et la phase de l'après-tout-ça, c'est un peu un mot plus simple pour parler du postmodernisme qu'un gros mot. Mais c'est cette phase de l'après-tout-ça dans laquelle on est, elle est très, je pense qu'elle est très productive et plutôt, elle est productive dans le sens où c'est des références très précises auxquelles les artistes s'associent. C'est pour ça que je parlerai de ces histoires de symboles mineurs et des répertoires qui sont niches. Bon, alors après aussi un aspect assez important dans ces trois expositions, c'était la façon dont les artistes développent des fictions. Et l'exposition se place un peu aussi en parallèle avec ça, dans le sens où il y a cette fiction qui est ce personnage de la baronne qui habiterait les lieux, enfin qui joue aussi avec cette idée commune d'un esprit. Les fictions que les artistes ont développées dans ces expositions, par exemple, c'est celle de Maïtou Perret, qui elle, je vais boire un petit verre d'eau. Je vais vous mettre des images, ouais. Je vais vous faire jouer le, parce que c'est vrai que là, je me suis arrêtée sur le. Je suis un peu trop longue. Ah, post-cigarette, d'accord. Vous allez rater plein d'informations. non, je rigole. Alors, attendez, je vais vous montrer des pièces de Maïtou Perret, plutôt, qui étaient présentes dans la première exposition. Donc, avec cette pièce qu'on voit au fond sur le mur, qui était associée à un texte. Je pensais avoir enlevé cet effet un peu de glissement sur les photos. Ouais. Là, on voit un détail, en fait, du casier. Et voilà, à l'intérieur, on voit une des figurines. Alors, je vais essayer de revenir juste en arrière pour m'arrêter là-dessus. Voilà, en fait, Maïtou Perret, la fiction qu'elle installe, qui est... en fait, ses œuvres sont des manifestations réelles de ses fictions. Je vais pas être trop longue, hein, si peut-être que c'est un peu... J'en ai encore pour 5 minutes, si vous voulez patienter. Mais peut-être que je peux ouvrir là. Hein? Ah, pour voir en vrai ce qui... Oui, d'accord. Mais dans tous les cas, mis à part ça, je vais pas être trop longue maintenant. Maïtou Perret, elle développe cette fiction qui est que toutes ces productions, toutes ces pièces ont été produites non pas par elle mais par une communauté de femmes qui est isolée au Nouveau-Mexique et qui produit des objets de nature plus rituelle et commémorative. Et qui ne sont pas a priori des objets à valeur artistique, ils sont tous porteurs des symboles de leur communauté. Alors pour elle, c'est aussi une façon de se dissocier en partie du travail d'artisan que représentent ces objets, en disant que c'est pas forcément elle qui est l'auteur de ces objets et qu'elle ne les fabrique pas de sa main propre, mais que c'est elle elle se pose plus en intercesseur de cette communauté de femmes dans le monde de l'art, comme si ces femmes lui parlaient à travers elle. Et donc elle s'inspire d'une idéologie des communautés féministes des années 70, sans non plus emporter totalement sur elle la portée idéologique, c'est-à-dire que c'est pas forcément une artiste féministe militante. Elle utilise ce phénomène historique pour introduire dans l'art des pratiques artistiques qui sont plutôt mineures et qui sont de l'ordre de la figurine de terre cuite, de l'ordre de la couture de drapeaux, de l'ordre du modelage de petits objets, ou alors comme elle le fait avec cette pièce-là, qui sont des sortes de sculptures en papier mâché recouvertes de feuilles d'or. Donc c'est des formes d'art qui sont plus proches de l'artisanat, qui ne sont pas des formes autoritaires en fait, qui sont très friables et voilà. Et donc en fait les œuvres du coup sont la manifestation de cette fiction. Et du coup l'expo devient aussi le lieu où les fictions se manifestent et se vérifient et se testent. C'est comme si on imagine l'univers d'un artiste comme un œuf, par exemple, et du coup l'exposition c'est le lieu où la surface émergée de l'œuf apparaît et qu'il y a tout un monde cohérent qui est caché derrière. Et voilà, enfin il y a aussi un autre artiste qui développe ce rapport-là à la production. C'est Jonah Freeman. Et Lily Renaud-Dewar, en quelque sorte, elle aussi, dans une sorte de procédé comme ça. Je vais vous montrer les pièces de Jonah Freeman. Et peut-être que je peux vous parler un peu plus de la pièce de Maïtou Perret dans le détail. Ouais, parce que du coup, c'est un peu trop abstrait. Ces rochers-là ? Voilà, ouais, ces rochers-là. Ouais, je vais chercher des images. Non. Voilà. Bon, bah, ces rochers, en même temps, si on les regarde, du coup, en effet... Oh, pardon. Je suis pas très... ouais. Si je fais pause, voilà. Je vais faire pause après. Si on les regarde bien matériellement, enfin d'un point de vue très matérialiste, comme je le défendais tout à l'heure, c'est des objets qui sont des grosses pépites d'or et d'argent qui sont réellement fabriquées en feuilles d'or et qui ont recouvertes de feuilles d'or. Hein? Ça bouge. Ouais, je vais essayer de m'arrêter sur une image de ces pépites. Non, bon, d'accord. Excusez-moi, je suis pas une bonne manipulatrice d'image là. C'est bon. Donc voilà. Pause. Hop. Et donc on voit aussi qu'elles sont creuses parce qu'on voit qu'il y a du grillage en surface. Si on regarde, si on s'approche un peu, on voit bien que c'est pas des vraies pépites d'or pleines. Mais que c'est des faux semblants en fait, c'est des imitations de grosses pépites d'or, c'est un peu des objets fantasmatiques. Et bon, ils ont aussi une histoire. Ça évoque en tout cas des formes, leur monumentalité, ça évoque des formes qui auraient pu être l'objet de rituels en fait. C'est des objets. Qui, si elles ont été fabriquées par quelqu'un, ont quand même une sorte de fonction d'ordre peut-être cultuel ou religieuse, en tout cas. Bon, après, ces formes-là, elles viennent concrètement de... Elle a fait un voyage en Birmanie et elle a pu voir plusieurs formes d'adoration et de rites religieux. Et dont c'est des Bouddhas. En fait, un jour, elle a vu une série de petits Bouddhas qui étaient adorés et qui, en étant adorés, sont couverts d'une feuille d'or sur la partie qui peut protéger la personne qui vient lui apporter cette offrande. Et ces Bouddhas, à force d'être adorés et d'être couverts de feuilles d'or, devenaient des petites formes informes et des sortes de crottes, en fait. Ça a formé, à partir d'une sculpture figurative qui était ce Bouddha, ça a formé une forme complètement abstraite, une forme qui ressemblait plus à une crotte et à une forme naturelle qu'à une sculpture religieuse. Voilà, c'est une assez belle histoire, parce que c'est vrai qu'à force d'amour et d'adoration, cet objet, cette forme humaine est devenue est repartie au stade de plus naturel. Et donc elle a reproduit telle qu'elle. Elle s'est inspirée de ces formes-là pour les reproduire en grandeur surdimensionnée. Et en les posant sur ce tatami, après, du coup, ça évoque vraiment une sorte de jardin zen. Enfin, il y a un rapport, très orientalisant, très vaguement orientalisant à ces objets. Donc, Maïtou Perret, elle présente toujours ses sculptures associées avec un texte. Et il y a en face de ces sculptures un texte qu'on voit sur le mur, là, qui s'appelle No More City, et qui continue, en fait, la fiction qu'elle met en place et qu'on peut recomposer par bribes. C'est jamais une fiction qui est totalement énoncée et dont on peut lire de A à Z les péripéties. Et donc c'est un texte qui raconte, en fait, c'est une femme probablement qui parle et qui dit nous, on est parti de la ville, on a voulu s'isoler de ce monde de consommation à outrance, et on est parti donc dans fonder une communauté, rejoignez-nous, No More City, ça veut dire plus jamais de ville. Rejoignez-nous dans notre communauté. C'est un espèce de pamphlet, en fait. C'est les textes que produit Maïtou Perret, c'est souvent de l'ordre pamphlétaire. C'est souvent des annonces pour qu'on se rallie à leur cause, pour qu'on les rejoigne à leur cause un peu perdue, isolée. C'est elle qui écrit les textes, ouais. Voilà. Et donc, en fait, moi, ce qui m'intéresse là-dedans, c'est qu'à partir d'une fiction qui est plus d'ordre littéraire chez Maïtou Perret, mais qui est assez elle se documente, et en même temps, elle rajoute à ça beaucoup d'inventions. Et chez Jonah Freeman aussi, c'est le cas, je vais vous montrer des images. C'est des artistes qui, à un moment, utilisent l'exposition comme un lieu où vient émerger cette fiction concrètement, où elle vient se manifester sous forme d'objets. Donc, Jonah Freeman, il était dans l'exposition numéro 2, qui s'appelait Chapitre 2, qui était, elle, cette exposition, du coup, elle était beaucoup plus liée à rapports à des lieux. Chaque œuvre vraiment développait un lieu spécifique. Donc, on voit une vue, là, de ce lieu. Alors, je vais essayer de... Ah. Je voulais qu'elle soit un peu plus petite. Vous en voyez un aspect là. En fait, c'est peut-être là qu'on la voit frontalement le mieux. Ouais, je vais vous la montrer en grand, comme ça. Elles sont un peu floues, ces images. Je ne comprends pas pourquoi elles sont si floues. Vous les voyez floues. Voilà, et Jonah Freeman, il développe une petite histoire qui était, là, en fait, ce qu'on voit, c'est un morceau d'une ville. Et donc, c'est un morceau qui est plus, qui rappelle plus un shopping, un centre commercial, qui serait, en fait, une sorte de jardin artificiel, comme on peut les voir des fois dans les centres commerciaux, surtout aux États-Unis, où il y a une culture de l'architecture du shopping mall, qui est vraiment... le shopping mall, c'est juste la traduction du centre commercial, où c'est des grandes architectures où on a une vie presque autonome. Je pense que c'est le point de démarrage de cette fiction que Jonah Freeman a développée par la suite. Où il s'agit, en fait, d'une ville complètement fermée, où toute la vie s'organise dans un grand immeuble tentaculaire, et où personne ne peut sortir, dont personne ne sort. Et c'est une ville qui s'est fondée. Il a apporté un texte qui était une chronologie de la fondation de cette ville, et qui trouve ses origines dans un voyage de son fondateur à l'exposition universelle de Londres en 1895, où il a vu le pavillon de verre. Et donc, où il a, ce personnage, c'est un horticulteur. Il a développé cette idée de construire une ville qui serait, dont il serait le patron et le maire, en quelque sorte, et qui serait une ville pour ses employés. Une ville couverte, en fait, construite sur ce modèle aussi des jardins couverts. Donc Jonah Freeman, à partir de cette sorte de fiction littéraire et qui est très documentée, qui trouve ses sources donc dans plein de types de documents qu'il a falsifiés, des documents plus ou moins enfin historiques qu'il a falsifiés. Je vais vous montrer aussi un autre élément de falsification. On voit la façon dont il peut falsifier un document plus historique, ou en tout cas lui donner un aspect historique. C'est voilà, c'est la chronologie de sa ville. Voilà, qui raconte en fait ce que je viens à peu près de vous dire. Donc la pièce qu'on voyait dans l'exposition, c'était comme un reste de centre commercial abandonné, avec des petites fontaines qui sont sur les fontaines, par exemple, il y avait une chaussure, une basket ou une bouteille de soda. En fait, c'était des bon, ça rentre aussi dans tous ces motifs, rentre aussi dans sa fiction. Tout ça, c'est lié à des lignes qu'il a construites. Donc, par exemple, les chaussures, en fait, c'est parce que dans ce monde fermé, il n'y a pas de voiture, et c'est le seul élément qui représente, qui joue le rôle des voitures dans notre société, c'est les chaussures. Donc, comme ici, on peut s'acheter des Mercedes pour montrer qu'on est riche, et bien là, on s'achète des super chaussures pour montrer qu'on est... Enfin, voilà, les chaussures révèlent le statut social des gens qui habitent la ville. Donc, la chaussure devient un objet d'adoration aussi, et ça explique pourquoi il y avait des fontaines avec des chaussures comme le motif public, en fait, qui était là dans l'espace public. Voilà, donc ça, c'est un exemple. Je vais continuer le diaporama, comme ça vous verrez d'autres vues de la pièce de Jonah Freeman. Ça, c'est un élément qui sera en fait dans le livre. Sur le côté de cette pièce, il y avait tout un ensemble beaucoup plus vandalisé. Donc c'était un peu la rencontre de deux univers et de deux usages de ce lieu. Qui se confrontait là. Je vais pas vous rentrer dans le détail de toutes les pièces. Je vous laisse quand même regarder les images, mais peut-être que vous avez vu les expositions. Voilà, donc je vais juste. En fait, je suis partie de cette histoire de ce rapport très matérialiste aux pièces pour après vous dire aussi que dans les expositions, j'essaye de développer j'invite en tout cas des artistes qui développent ce rapport à des fictions qui courent et qui en sous-texte des œuvres et dont les œuvres sont que partiellement représentatives. Donc voilà, c'est un peu pour poser en fait un début et une fin de mon rapport aux œuvres. D'ailleurs, j'avais une citation par rapport à ce rapport matérialiste de Gerhard Richter qui dit « L'art se fonde sur des conditions matérielles. Je n'ai qu'à agir selon les lois et les conditions qu'impose la forme pour qu'elle se réalise avec précision. Le dessin, ne rien inventer, aucune idée, aucune composition, aucun objet, aucune forme, et tout obtenir, la composition, l'objet, la forme, l'idée, l'image. » Et ça, c'est, je pense, une attitude qui est typique d'un artiste de cette génération, qui a été maintenant assimilé et qui est réingurgité par des artistes qui se permettent justement de faire des raccourcis historiques, de faire des raccourcis dans des références à des références idéologiques. Enfin, la pièce d'Alexander Wolff, c'est vraiment un effet de raccourci qui produit aussi une certaine fantaisie dans le double sens, quoi, une fantaisie dans le sens où il y a l'imaginaire aussi qui est incorporé à ça. Voilà, donc je vais arrêter là, et puis si vous voulez qu'on... Oui, mais voilà, alors Sol Guilly, excuse-moi, parce que... et du coup, j'ai fait complètement l'impasse sur ton boulot, parce que, en plus, ton travail, il est assez à part par rapport à tout ce... Enfin, à part dans le sens où il a... Bon, alors, Sol Guilly, qui est là, a réalisé ce collier de perles de dents qui est accroché au mur. Cette petite fontaine qui est débranchée, donc on ne voit pas bien en fonctionnement. On peut la brancher. Donc en fait, voilà, cette petite fontaine avec des petites gouttes d'eau qui perlent sur les cheveux. Et puis ce nœud en fourrure animale qu'on voit, qui est derrière vous. Donc c'est un ensemble de trois pièces qui sont assez surréalistes en un sens. Parce qu'elles font des virgules. Selgi, elle fait des virgules, ouais. Ouais. Et c'est... Bon, cette pièce, moi, elle m'intéressait beaucoup par rapport au fait de poser un moment, d'essayer de poser le portrait de cette baronne qui, en fait, échappe toujours. Et finalement, on ne voit pas de visage derrière cette chevelure. Et puis aussi, l'esprit de la baronne, il est dans le collier, dedans. On peut imaginer un personnage un peu carnassier vis-à-vis de ses œuvres et des artistes. Enfin, simplement, non, enfin voilà, c'est un trophée en fait, c'est un peu un trophée. Et puis, enfin, je veux pas de toute façon épuiser non plus le sens des œuvres, mais moi c'est aussi pour ça que je les ai posées là en fait. Et est-ce que tu veux parler, Sol Guilly? Non, d'accord. Non.
Tu vas parler, hein,
mais c'est toi qui as parlé aussi à travers le texte par lequel j'ai commencé de avec l'histoire de Marco Polo.
D'ailleurs, les petits nœuds continuent dans les cheveux, là.
Et les petits nœuds continuent dans les cheveux, ouais. Et donc, c'est un nœud qui est un peu animal, en fait, enfin, qui est vraiment en fourrure animale et qui est un geste très simple d'association de deux formes circulaires. Qui forme un signe de l'infini combiné en un nœud assez. Qu'a une imagerie assez pop aussi, finalement, le nœud. En vrai fourrure de lapin, qui ne sont pas une espèce en voie de disparition.
Oui, en plus, lapin, c'est un aliment un peu ambigu parce que c'est un animal mignon de la tête de l'enfant. Mais. Mais c'est pas les dents de la femme, ils sont là.
Ah non? Alors le pliage, c'est un origami fait. Alors c'est toute une histoire, ce pliage. Je vais vous la raconter. C'est voilà. On peut lire d'ailleurs sur le morceau de papier The 1984 Miss General Idif Pavillon Foundation. En fait, c'était ici, il y avait une vitrine et pendant la première exposition, il y avait un ensemble de pièces de General Idif. Donc il y avait un grand tableau, un portrait de ce groupe de trois personnes en gloire avec des chapeaux de caniche et puis une vitrine avec les Files Magazine dont ils sont les auteurs. En fait, les Files Magazine, c'était... Bon, je ne vais peut-être pas rentrer dans tous ces détails. En fait, ces artistes-là, dans les années 70, ils ont élaboré un personnage qu'ils appelaient Miss General Idif, que j'ai cité dans l'exposition parce que c'était aussi une façon pour moi, de me filier avec eux sur le rapport à la construction d'un personnage fictif qui vient nous épauler. Et donc Miss General Idif, en fait, c'était leur muse en tant qu'artiste. Et elle les a aidés aussi à se, enfin ils l'ont utilisé comme s'ils pouvaient, comme si c'était le passage obligé pour être validé en tant qu'artiste et d'avoir sa muse dans un rapport très traditionnel, et conventionnel et académique à l'art. Et donc ils ont fait des élections de cette muse, cette Miss General ID. Chaque année il y avait des élections, et ça s'est terminé par l'élection de Marcel Dot, dont je vais reproduire une image dans le catalogue que je crois que j'ai là. Je vais vous montrer une image juste parce qu'il a c'est un personnage, voilà. Bon, alors associée à cette muse, il y avait aussi elle était reproduite dans le magazine File, et il y avait aussi des élections, et puis un manifeste qu'ils ont appelé le manifeste de l'amour, qui est aussi le passage obligé pratiquement du collectif d'artistes quand il veut s'énoncer comme tel. Enfin, c'est un passage très aussi encore une fois académique, que de dire nous en tant qu'artistes on veut se poser en tant qu'artiste, donc on fait un manifeste. Et sauf que ce manifeste c'est pas un manifeste futuriste qui aurait une revendication politique, c'est un manifeste glamour. Et le glamour c'est vraiment l'esthétique, cette position ambivalente entre nature et culture, qui est une esthétique proprement liée à la culture de magazine et de consommation, et qui est propre aussi à leur qui s'est développée à cette époque dans leur contexte dans leur contexte des années 70. Et donc ils ont à un moment ils ont beaucoup pratiqué ce qu'on appelait le mail art, et ils ont envoyé à plein d'artistes ce papier qui est là, ce papier qui était un blueprint, qu'on appelle un blueprint. C'est un blueprint, c'est un document à partir duquel on dessine une architecture. Et donc il l'a envoyé à plein d'artistes pour qu'ils fassent le pavillon de la Miss General ID et pour qu'ils signent son arrêt de mort. Finalement, un pavillon, c'était comme un monument commémoratif. Ils ont fait aussi un livre qui s'appelait XXX Photo pour la Miss, en fait, et ça c'était en 71. Ils ont demandé aux gens, aux artistes à qui ils ont envoyé ce papier, de faire un pavillon qui sera érigé en 1984. C'était une espèce de projection dans le futur. Et du coup, là, ça, c'est une pièce de Pierre Wig, en fait. Il en a fait un origami, comme si c'était un dessin d'architecture en volume, directement proposé en volume, et qui est en fait une façon de leur répondre sans qu'eux-mêmes aient envoyé ça à Pierre Wig, mais lui s'est approprié ce projet qui était un projet en transmission d'artiste à artiste. Donc c'était une façon aussi de revenir sur l'histoire de General ID en proposant un pavillon plié en origami. Donc c'est aussi un lieu, en fait. C'est vraiment proposer un lieu pour une architecture pour qu'elle puisse être fabriquée peut-être plus tard. Et ça fonctionne aussi dans ce projet qu'a Pierre Wig de construire un parc avec des œuvres qui construiraient autour d'elles leur propre architecture et qui seraient conçues sur la forme du pavillon, comme il y a des pavillons dans les expositions universelles, par exemple. Donc ça, ça fait partie aussi de son travail de recherche sur des œuvres autonomes dans leur temporalité, leur lieu, leur architecture. Je continue là. En fait, j'ai pas du tout l'habitude de parler comme ça. Donc c'est un peu une première pour moi, c'est un peu expérimental, c'est pour ça que c'est un peu abstrait et c'est un exercice pas facile.
Surtout quand on oublie
son papier qui réunissait tout, qui est un peu. Et surtout, je voulais pas du tout m'excuser ou quoi que ce soit, simplement c'est. Moi, j'ai l'habitude de parler de ces expos quand je circule dans les œuvres et que j'en parle plus précisément et que je m'appuie sur elles pour en parler. Et puis là, j'ai fait un peu la démarche inverse, d'essayer d'en tirer des notions plus abstraites pour définir un peu ma démarche. Mais en tout cas, oui, ce que je voulais ajouter, c'est que donc moi, j'ai la double rôle de critique d'art et de commissaire d'expo. Et quand je suis critique d'art, je contrôle de A à Z un texte dont je suis la seule auteure et dont le rapport que j'ai à ça, c'est plutôt un rapport de monologue. Alors que quand je fais une exposition, y a plein de choses qui m'échappent, et c'est des, y a à la fois l'obscurité des objets eux-mêmes que sont les œuvres d'art, et puis aussi les artistes eux-mêmes qui sont porteurs de leur discours, que moi je ne peux pas non plus complètement maîtriser, évidemment. Et donc c'est ça qui m'intéresse dans une exposition, c'est presque un processus inverse, que quand on écrit un texte, c'est qu'à un moment on propose un projet à des artistes, et puis ils nous répondent, et on ne maîtrise pas tout à fait leur projet. Il y a une part d'inconnu d'aléatoire. Qui est constructif, parce que du coup c'est ça, je pense, qui fait avancer aussi c'est mes ententes ou ces désaccords ou c'est aussi ces imprévus, quoi. Et voilà, bah merci Annie en tout cas de m'avoir invitée à toutes ces expos.